Alexandre Dumas, Black, chapitre 32. La différence qu'il y a entre une tête qui a des favoris et une tête qui a des moustaches. C'était un hôtel très somptueux que l'hôtel d'Elben, un hôtel bâti tout récemment par un architecte à la mode et décoré à l'intérieur d'une profusion de statues et de sculptures qui n'étaient peut-être pas du meilleur goût, mais qui donnaient une haute idée de l'opulence de son propriétaire. Deux colonnes d'ordre corinthien encadraient une porte cochère de bois de chêne, toute fouillée d'arabesques et de cannelures. Cette porte s'ouvrait sur un passage vitré et pavé en bois, afin d'étouffer le bruit des voitures. Au fond du passage était la cour, dans laquelle on apercevait les écuries et les remises. Plus loin encore, un jardin donnant sur les Champs-Élysées. Au premier plan du passage, à droite, était la loge du concierge. À gauche, et fermée par un vitrage en verre de couleur, la cage d'un escalier somptueux par lequel on montait aux appartements. Un moelleux tapis couvrait les marches. Le chevalier de la Graverie descendit de son fiacre et s'arrêtant devant la loge du concierge. « Monsieur d'Elben, demanda-t-il, est-ce au père ou au fils que monsieur désirerait parler ? » répondit le serviteur. « Au fils, mon ami. » Le concierge frappa trois coups sur un timbre. Un valet de pied descendit l'escalier et se présenta à la porte vitrée. « Quelqu'un pour monsieur le baron, » fit le concierge. Le valet de pied montra le chemin à monsieur de la Graverie et l'introduisit à l'entresol dans un élégant appartement dont il lui ouvrit le salon. Là, il le pria d'attendre quelques instants, tandis qu'il irait prévenir son maître. Le chevalier, en homme qui sait mettre le temps à profit, commença par se chauffer les pieds que sa course en fiacre avait singulièrement refroidis. Puis, lorsqu'il fut installé au coin du feu, les talons sur les chenets, il jeta un coup d'œil autour de lui. Monsieur de la Graverie, élevé dans le monde, ne pouvait être surpris du luxe de l'appartement dans lequel il se trouvait, bien que les raffinements de luxe, tendant surtout au confortable, fussent tout à fait nouveaux pour un homme de cette époque. Mais ce qui le frappa, ce qui arrêta ses regards, ce qui lui parut étrange, ce fut le choix des brochures qui encombraient une table placée à sa portée. Brochures qui lui semblèrent médiocrement se rapprocher du caractère de Gratien, dont il avait pu, dans une courte mais sérieuse conversation, apprécier l'insouciance et la légèreté. Ces brochures traitaient toutes, soit d'économie politique, soit de philosophie supérieure, soit de sciences sociales. Elles n'étaient point là pour la parade. Toutes étaient coupées. Plusieurs d'entre elles étaient froissées par un usage quotidien. Enfin, sur la marge de quelques-unes, monsieur de la Graverie aperçut des notes qu'il lut et qui lui parurent bien profondes pour être sorties de la tête et avoir été tracées par le crayon d'un jeune officier de cavalerie. « Ce diable du domestique se sera trompé, » murmura monsieur de la Graverie, « et au lieu de m'introduire dans les appartements du fils, il m'aura introduit dans ceux du père. » Faut-il profiter du hasard et exposer à celui-ci la situation? C'est dangereux, car, enfin, je ne puis rien prouver à l'endroit de Thérèse. Thérèse n'a pas de nom, et si mon frère tient bon, peut-être me sera-t-il malaisé de donner ma fortune à la pauvre enfant. Donc, tout dire au papa serait peut-être ajouter encore des difficultés à celles devant lesquelles je suis déjà si embarrassée. Monsieur de la Graverie en était là de ses réflexions, lorsqu'une portière se souleva et donna passage à un jeune homme qui s'avança vers lui, sans qu'il fût entendu par le chevalier, l'épaisseur du tapis amortissant le bruit des pas. « Vous désirez me parler, monsieur ?» dit le jeune homme. Monsieur de la Gravrie se dressa dans le fauteuil où il se prélassait, beaucoup plus par l'effet de la surprise qu'il éprouvait que par politesse. En effet, c'était bien Gratien d'Elben qu'il avait devant les yeux. C'était bien son visage, sa taille, sa tournure, sa physionomie, le ton de sa voix. Cependant, il y avait dans la figure du nouveau venu quelque chose que le chevalier se rappelait parfaitement n'avoir pas vu sur celle de l'officier, et qui le frappa tout de suite. Ce quelque chose, c'était une paire de favoris noirs, encadrant parfaitement le visage du jeune homme, qui, sur tout le reste du visage, portait la barbe complètement rasée. Depuis la veille, les moustaches et la royale pouvaient avoir disparu, mais les favoris ne pouvaient pas avoir poussé. C'est cependant bien à monsieur Gratien d'Elben que j'ai l'honneur de parler, demanda le chevalier, intimidé par cet incident imprévu. Le chevalier commençait à s'intimider facilement. Le jeune homme sourit. Le mot cependant lui expliquait tout. « Non, monsieur, répondit-il, je suis Henri d'Elben. Mon frère Gratien est sorti. Il est allé déjeuner avec quelques camarades de garnison, mais si je puis être votre interprète auprès de lui, disposez de moi, monsieur. »« Henri ? Ah ! Vous êtes Henri d'Elben ? S'écria le chevalier, en proie à une émotion visible, car il avait devant lui l'homme que Thérèse avait tant aimé, le seul qu'elle eût jamais aimé. Et il comprenait combien facilement la jeune fille avait pu être la dupe de cette extraordinaire ressemblance. « Oui, monsieur, répondit le jeune homme en souriant. Gratien vous aura sans doute parlé de moi, et malgré tout ce qu'il vous aura dit, vous êtes étonné, comme tout le monde, de notre ressemblance. On se ressemblerait de plus loin, nous sommes jumeaux. « Je comprends, dit le chevalier, mais pardonnez à mon émotion. Cette ressemblance que j'avais oubliée, quoi qu'on m'en eût dit, a éveillé chez moi le souvenir d'une aventure qui a si cruellement pesé sur ma vie que je n'y puis songer sans me trouver à l'instant même fortement impressionné. En effet, monsieur, vous êtes tout tremblant. Remettez-vous, je vous en prie, et demeurez assis. » Henri prit lui-même un siège et se plaça de l'autre côté de la cheminée. « Dans quelques instants, reprit-il, vous me direz ce qui vous amène. » « Il n'est pas besoin d'attendre quelques instants pour cela. Et tenez, monsieur, puisque je ne trouve pas votre frère, dit résolument le chevalier, qui se sentait enhardi par l'air de douceur et de bonté répandu sur le visage du jeune homme, eh bien... j'ai envie de vous raconter toute mon histoire. Je suis un pauvre vieillard isolé, sans parents, sans amis. Vous avez l'air grave et réfléchi, plus qu'on ne l'est ordinairement à votre âge. J'ai souffert, monsieur, interrompit Henri, avec une expression de physionomie qui avait l'intention d'être un sourire. J'ai donc acquis à mes dépens l'expérience du cœur. Celle qui vieillit le plus vite, c'est privilégiée. Celle aussi dont on profite le moins. Eh bien, continua le chevalier, tout jeune que vous êtes d'âge, du moins, monsieur, peut-être pourrez-vous me donner un conseil. À mon âge, à moi, l'esprit est paresseux, et la volonté est lente à prendre un parti. D'ailleurs, je vous avouerai franchement, que j'ai toujours été un caractère fort irrésolu. « Parlez donc, monsieur, dit le jeune homme, et quoique je ne puisse penser que mon avis doive vous être de quelque utilité, croyez que ma sympathie vous est tout acquise, et que ce ne sera pas ma faute si elle reste stérile. » Le chevalier se recueillit un instant, puis, regardant fixement son interlocuteur. « Que penseriez-vous, monsieur, lui dit-il, de l'homme qui, abusant d'une ressemblance aussi singulière que celle qui existe entre vous et monsieur votre frère, et à l'aide d'un déguisement, de l'obscurité ou de tout autre moyen, tromperait une malheureuse jeune fille, et, se faisant passer pour celui qu'elle aime, profiterait de la méprise pour la déshonorer et l'abandonner ensuite à son désespoir. À mon avis, monsieur, cet homme, s'il pouvait exister, serait un misérable, digne de la réprobation de tous les honnêtes gens. Et si cette jeune fille, à la suite de ce crime, était devenue mère? Monsieur, ce sont là, par malheur, de ces crimes qui ne tombent sous le coup d'aucune loi. Mais je vous déclare ici, sur ma foi de gentilhomme, que j'aimerais 100 fois mieux presser la main du bandit qui, le poignard à la ceinture, le pistolet au poing, escalade une maison, vole en hasardant sa liberté, tue en risquant sa vie, que de me trouver en contact avec l'homme sans cœur, sans foi, sans honneur, qui a pu commettre une action semblable à celle dont vous parlez. « Eh bien, monsieur, dit le chevalier, cette histoire est la mienne. L'enfant séduite, une enfant si tendre, si douce et si bonne qu'on ne peut la voir sans l'aimer, c'est ma fille, monsieur. »«
Votre fille ? » ?»«
Ma fille adoptive, du moins. » »« Et vous n'avez pas exercé de justes représailles ? Vous n'avez pas tué l'homme qui a apporté le déshonneur dans votre maison ? »
Je vous l'ai dit, monsieur, je suis presque un vieillard, j'ai plus de 50 ans, je suis faible. Ma main débile a à peine la force de supporter le poids d'une épée ou d'un pistolet.
Dieu vous eût donné la force, monsieur, car Dieu eût été avec vous, s'écria Henri avec une exaltation communicative. Dieu est avec le père qui venge son enfant, il donne le courage au passereau qui défend ses petits contre l'oiseau de proie. Pourrait-il manquer à l'homme qui accomplit sa mission dans ce qu'elle a de plus saint et de plus sacré?
Mais le duel est réprouvé par toutes les lois divines et humaines.
Le duel, monsieur, et c'est un malheur. Mais ce malheur, il faut l'accepter. Le duel restera la loi de Dieu tant que la société ne sera point assise sur d'autres bases, tant que la justice humaine n'ira pas chercher dans le cœur de chacun le mal pour l'extirper, le bien pour le récompenser. Le duel, enfin, sera nécessaire tant que l'homme social trouvera juste et quelquefois plaisant que l'homme attente à la vertu de la jeune fille et à l'honneur de l'épouse.
Ainsi, monsieur, si le coupable s'obstine à refuser à la jeune fille la réparation qui lui est due, vous me conseillez de me battre avec lui.
Sur mon âme et ma conscience, monsieur, répondit Henri, je vous le conseille.
Alors, monsieur, je dois vous l'avouer, reprit monsieur de la Graverie, quoique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes habitudes soient pacifiques, quoique j'ai passé la meilleure partie de ma vie dans la seule préoccupation de mon bien-être, c'était aussi ce que je pensais, et je m'y fusse décidé si je n'avais été retenu par une crainte.
Cette crainte, quelle est-elle?
Je suis le seul appui de la pauvre enfant. Quoi que vous en disiez, le ciel n'est pas toujours du côté du droit. Le sort peut me trahir. Que deviendrait la pauvre fille si je lui manquais?
S'il en était ainsi, monsieur, répondit Henri avec simplicité, je tâcherai de vous remplacer près d'elle.
Vous me promettez, monsieur?
Je vous le jure.
Tenez, monsieur, dit le chevalier avec une exaltation qui était bien loin de ses habitudes, il y a tant de franchise, tant de noblesse, tant de loyauté dans votre regard, que je veux vous croire et je me décide. Eh bien, oui, je le jure à mon tour. Le coupable sera puni.
Mais je serai forcé de réclamer de votre obligeance un service de plus.
Lequel, monsieur? Parlez.
Je ne connais personne à Paris et ne saurais à qui m'adresser si vous me refusez ma demande. Je vous prierai de me servir de témoin.
Volontiers, monsieur.
Vous me jurez encore que, quel que soit mon adversaire et le mode de combat adopté, vous ne m'abandonnerez pas dans la mission providentielle que je vais remplir.
Car, vous devez vous en apercevoir, monsieur, je suis fort inexpérimenté dans ces sortes de choses.
Et puisque vous avez été assez bon pour m'éclairer de vos conseils, je veux espérer que votre présence ne me fera pas défaut au moment décisif.
Vous avez ma parole sur ce point comme sur les autres, monsieur. Mais, pardon, j'ai à mon tour un détail assez important à vous demander.
Vous êtes l'ami de mon frère, à ce qu'il paraît. Mais moi, je n'ai pas l'honneur de vous connaître.
Serez-vous assez bon pour me donner votre nom et me laisser votre adresse?
Je m'appelle Monsieur de la Graverie. Je suis chevalier de Saint-Louis, comme vous voyez. Je demeure habituellement à Chartres, mais pour le moment rue de Rivoli, hôtel de Londres.
Cela suffit, monsieur. Lorsque vous aurez besoin de moi, dites un mot et je suis tout à vous.
Je vous remercie et vous prie de me garder le secret sur tout ceci.
Je vous en donne ma parole.
Mais à propos, vous ne m'aviez point encore parlé, monsieur, de ce qui vous amenait chez mon frère.
Ne voulez-vous point me charger de le lui dire?
Cela n'a aucune importance, monsieur. Je venais simplement lui remettre cette valise qu'il a oubliée hier dans la malle-poste et que mon cocher a emportée par mégarde.
Le chevalier se leva.
Je vous remercie pour Gratien, dit le jeune homme.
Adieu, monsieur,
et croyez que mes vœux vous suivront dans la mission que vous allez remplir.
Henri insista pour reconduire le chevalier jusqu'à la porte cochère et lui donna une dernière poignée de main lorsqu'il l'eut installé dans son fiacre. Le cœur de Monsieur de la Graverie battait très fort. Son émotion était vive et profonde. Il sentait de temps en temps un frisson courir sous sa peau, un nuage passer sur ses yeux et ses cheveux se dresser sur sa tête. Un premier duel à 50 ans ne pouvait pas produire, on en conviendra, un moindre effet.
« Ah, si Duménil était là !» murmura le chevalier en soupirant.
« Lui, qui allait se battre comme moi, je vais déjeuner, qui maniait l'épée et le pistolet comme je maniais ma fourchette. Mais par malheur, il n'est plus là. Et ce n'est pas Black qui pourrait se mesurer avec Gratien. Depuis le chien de Montargis, cela ne s'est pas revu. D'ailleurs, Black lui-même court les champs.
« Où va monsieur ?» demanda le cocher.
« Ah oui, où je vais ?
C'est vrai, je ne sais pas.
« Comment ? Monsieur ne sait pas où il va ?»«
Non. »«
Priez le concierge de venir me parler. »
Le concierge, prévenu par le cocher, s'approcha respectueusement. Il avait vu monsieur Henri conduire le visiteur jusqu'au fiacre.
« Mon ami, » demanda le chevalier, « savez-vous où je trouverai à cette heure monsieur Gratien d'Elben ?»«
Vous le trouverez, monsieur, à l'estaminet hollandais dont il ne quitte jamais les divans tant qu'il est en congé. »«
Alors, cocher, à l'estaminet hollandais !» cria le chevalier, d'un ton que n'eût pas trop désavoué feu Duménil.
« Et rondement, il y aura pour boire. »